Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Ici bas, où y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, nous reprenons les émissions sur CFM de la Ligue des droits de l'homme. Et pour la première de l'année, je tiens à vous présenter les vœux de tous les partenaires de la section de Villefranche de Casvilles. Nous allons parler de plusieurs sujets, mais en premier, donc, nous présenter autour de la table
Marie-Jo Moisset
et Dominique Ladet
et Pierrette Mataran. Évoquons d'abord les actualités de la LDH et puis ce qui nous a intéressés dans un premier temps.
Bon, moi, je pense qu'il y a un sujet qu'on avait déjà travaillé à Villefranche avec la venue d'un intervenant, c'est la loi de bioéthique qui passe actuellement au Sénat et sur laquelle il y a encore quelques soubresauts parce que, bon, il y a une certaine opposition. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette loi, mais nous espérons qu'elle passera telle que la Ligue l'a soutenue.
Nous avions été amenés à travailler avec des personnels de l'hôpital et nous avions donc fait une conférence le soir en ayant comme conférencier Philippe Laville qui est de la Ligue au plan national.
Sur un autre plan différent mais qui rejoint le thème d'aujourd'hui, à Mayotte, il y a encore trop d'enfants qui sont interdits d'école et interdits de façon administrative parce qu'on leur demande des papiers que la loi n'exige pas. Donc, ils sont interdits d'école par les mairies ou par l'école elle-même. Ils ne peuvent pas s'inscrire.
Et c'est un sujet qui rentre tout à fait dans la plaidoirie que nous allons écouter tout à l'heure sur le droit à l'école. Bon, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que 2020, c'est l'année des élections municipales, où il y aura des débats locaux sur des sujets qui intéressent particulièrement la Ligue, comme tout ce qui concerne la vidéosurveillance, la sécurité, et où les surenchères vont bon train, et c'est à celui qui va proposer dans ses programmes, je ne parle pas de Villefranche, mais je parle d'une façon générale, le plus de caméras de vidéosurveillance, le plus d'argent, sans obligatoirement mesurer l'impact en termes d'utilité, en termes d'efficacité et en termes de liberté publique. Et puis, les élections municipales, c'est quand même un temps où il faut défendre l'implication de tous, la démocratie locale, l'implication des citoyens. Et ça, la Ligue des droits de l'homme est très attachée au fait que les citoyens puissent participer à la vie locale, donner leur avis. Il faut trouver des formes et des formes nouvelles pour la démocratie locale. Il ne s'agit pas de décider à la place, puisque nous, on n'est quand même pas contre la démocratie représentative, mais il faut rajouter quand même, quand on fait des projets dans une commune, il faut associer les gens et puis il faut faire des projets en fonction des besoins des habitants et pas en fonction de quelques lubies des uns ou des autres.
Alors Marie-Jo, quand tu parles d'élections municipales et de vidéosurveillance, je voulais signaler simplement que la Ligue des droits de l'homme s'est associée à la Quadrature du Net, ça s'appelle, qui, pour la première fois, vient d'assigner devant le tribunal administratif de Marseille, la municipalité. C'est un premier recours contre la vidéosurveillance automatisée de l'espace public. Et c'est quelque chose d'important dans la vie démocratique d'un pays. Comme exemple, je prendrai la Chine, pas comme exemple de démocratie, comme exemple de vidéosurveillance automatisée à fond.
Autour de la vidéosurveillance, nous avions relevé aussi le sujet qui s'était présenté à Villefranche, dans un quartier, qui était sélectionné pour les voisins vigilants. Et nous n'avons jamais eu d'analyse finale du résultat de cette mise en place, pour l'instant. Donc, Marie-Jo parlait de la préparation des élections. La Ligue, bien sûr, participera à des débats, peut-être. Mais en tout cas, conseille à tout le monde d'être vigilant sur tous les sujets proposés, d'être acteur aussi de ces sujets. Et une des premières façons de l'être, c'est d'aller voter. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui et de la plaidoirie d'aujourd'hui concerne donc, comme l'a évoqué déjà Dominique, le droit à l'éducation. Alors cette plaidoirie était présentée au lycée, comme vous avez eu l'habitude, on a fait passer d'autres plaidoiries précédemment, en mars 2019. Cette action a été menée avec le lycée, je parle était, parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse la renouveler. Nous y attachions beaucoup d'importance, puisque chaque élève de seconde ou première qui intervenait avait l'engagement d'un élève jeune et novice, ce qui a mené beaucoup d'interrogations vis-à-vis de ces élèves et avait un impact important autour des sujets qu'ils apportaient. Alors, le droit à l'éducation, le titre de cette plaidoirie, est une phrase de Victor Hugo, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Alors, dans un premier temps, nous avons interviewé l'élève, et on va donc écouter l'interview de l'élève, et ensuite la plaidoirie.
Bon, ben avant, on va réécouter Sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé, 4 et 4 fois 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que de travail,
travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé,
participe passé.
4 et 4 font 8.
4 et 4 font 8.
Leçon de français.
Leçon de français.
De mathématiques.
De mathématiques.
Que de. Travail.
Travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis.
Car sans
Parmi dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne.
Bonjour Salomé. Je voudrais que vous me parliez de votre sujet.
C'est le droit à l'éducation. Donc j'ai choisi ce sujet parce qu'il y a quelques années, j'ai compris que être née en France et avoir été scolarisée depuis que je suis toute petite, c'était une chance que certaines personnes de mon entourage n'avaient pas forcément compris parce qu'ils ne travaillaient plus à l'école et que pour eux, c'était devenu une banalité et qu'il y a des millions d'autres enfants dans le monde qui aimeraient prendre leur place. Donc pour moi, c'était essentiel de parler de ça. Parce que j'ai toujours aimé aller à l'école, j'ai toujours aimé apprendre. Enfin, je sais que j'ai changé ma place pour rien au monde.
Alors, donc, ce thème de l'éducation, qui est un sujet effectivement de fond et qui est très important, comment vous l'avez abordé? Quelle a été votre méthode?
J'ai fait des recherches sur plusieurs pays, sur quatre essentiellement, donc la France, où ben, on est tous obligés d'aller à l'école depuis qu'on a 6 ans. Ensuite, j'ai choisi le Kenya, où la plupart des enfants sont scolarisés, mais c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles, elles sont souvent très loin. Ensuite, j'ai choisi le Vietnam, où il n'y a que les enfants de familles riches qui ont la chance d'aller à l'école. Et ensuite, j'ai parlé de l'Afghanistan, où malheureusement, il y a plein d'écoles qui ferment à cause des attentats et de la guerre.
Et donc, à partir des documents que vous avez retrouvés, que vous avez cherchés sur Internet, ou que vous avez obtenus à la bibliothèque,
Oui, je suis allée sur Internet. J'ai trouvé beaucoup de sujets dans l'actualité de l'année dernière. Par exemple, le Vietnam, j'ai trouvé avec un sujet où une association a construit une école pour des enfants qui n'avaient pas le droit d'y aller. Mmh. Et pour l'Afghanistan, c'est des attentats qui étaient datés d'il y a quelques mois.
D'accord. Est-ce que la façon dont vous l'avez exposé, écrit d'abord et exposé, vous a convenu? Est-ce que vous auriez changé quelque chose? Et qu'est-ce qu'on vous en a dit après?
Les personnes qui m'ont donné des retours, elles étaient très contentes, très fières de mon sujet et de comment je l'ai exprimé. Je suis très fière aussi parce que je n'avais pas forcément l'habitude d'écrire autant sur un sujet comme ça. Et ça m'a permis de pouvoir m'exprimer à l'oral de mieux en mieux.
Et d'exprimer votre motivation.
Oui.
Est-ce que vous conseilleriez à d'autres de le faire?
Oui, je pense qu'on devrait tout le faire parce que même si on choisit les mêmes sujets, on ne va pas forcément l'aborder de la même façon. On n'a pas forcément les mêmes choses à dire. Je pense que chaque élève de chaque lycée devrait le faire pour pouvoir améliorer la société dans laquelle on vit.
C'est bien. Merci pour votre témoignage.
Tous aller à l'école, c'est le droit des enfants d'obtenir la parole.
C'est le droit des enfants,
manger tous à sa faim.
C'est le droit des enfants,
de plus tendre la main.
C'est le droit des enfants.
Tous les matins, nous allons à l'école pour apprendre à lire et écrire. C'est un droit dont tous les enfants doivent bénéficier. Selon l'UNESCO, plus de 63 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école n'étaient toujours pas scolarisés dans le monde en 2018. Salomé aborde le droit à l'éducation dans sa plaidoirie intitulée « Chaque enfant est un homme qu'on gagne ».
Mesdames et messieurs, le lundi 2 avril 2018 était pour nous, élèves de l'éducation française, un jour férié où nous pouvions nous réveiller tard, rester au lit en pyjama toute la journée, regarder des films. Mais pour eux, pour ces élèves afghans et leurs familles, cette journée était un cauchemar. Ce jour-là, une école a été bombardée par l'armée au nord-est de l'Afghanistan. Au moins une centaine de personnes, parmi lesquelles de nombreux enfants, ont été tués et blessés. Plus de 700 étudiants s'apprêtaient à recevoir leur diplôme de fin d'année et plus de 2000 personnes étaient rassemblées. Abdul Khalil était présent sur place. Son neveu de 15 ans s'apprêtait à être diplômé. Il est mort avec 15 autres membres de sa famille. Jalalabad, en Afghanistan. Une école de sages-femmes a été attaquée par des talibans le 28 juillet dernier. 2 personnes sont mortes et 5 blessées. Ce matin-là, ils auraient pu ôter la vie à des dizaines, voire des centaines de personnes présentes. À cause de ces attentats, le droit à l'éducation est une nouvelle fois remis en question. Et c'est pour cela que j'en ai fait le sujet de ma plaidoirie. Chaque enfant dans le monde a un prénom. Marie, Curtis, Samir, Ava, Lucie, Mathis, Juan, May, Ibrahim, et chaque enfant dans le monde a les mêmes droits. D'après la Convention des droits de l'enfant de 1959, l'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chance, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'éducation est un droit essentiel qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. L'éducation est nécessaire pour développer sa personnalité et son identité. Le Libéria occupe la première place dans le classement des 6 pays avec un taux de déscolarisation les plus élevés. Au Soudan du Sud, 59% des enfants ne peuvent pas bénéficier d'une éducation primaire et une école sur trois est fermée en raison de conflits. Et nous, nos camarades, nos amis, nous arrivons tous les jours dans notre salle de classe en nous plaignant d'avoir trop de devoirs ou d'évaluations, alors que là-bas, c'est plus de la moitié des enfants vivant au Soudan qui n'ont pas la chance de s'asseoir sur les bancs de l'école. Nous sommes là, et eux sont en train de travailler pour survivre à la misère de leur pays, où ils deviennent même des enfants soldats. Regardez les vêtements que vous portez, ou bien votre téléphone. En fait, regardez tout autour de vous. Vos chaussures, votre trousse, vos stylos, le cadeau de votre meilleur ami pour son anniversaire. Qui les a fabriqués ? Ce sont ces enfants, privés de leurs droits, de leur enfance, privés de vivre comme tout autre enfant. Le Vietnam est un pays où les enfants pauvres ne sont pas scolarisés et où les enfants migrants sont interdits de scolarité. Pourtant, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'enfant garantit que l'enseignement est gratuit et obligatoire et que la discipline scolaire doit respecter la dignité de l'enfant. Comment pouvons-nous parler de dignité quand un des droits les plus fondamentaux de la Déclaration des droits de l'enfant n'est pas respecté? En 2016, les Filles de la Charité, une association religieuse, a construit une école primaire pour ces enfants rejetés par la société. Grâce à cette action, ces enfants qui autrefois ne pouvaient entrer dans une école en ont maintenant une sans aucun frais de scolarité. Jackson est un enfant kényan de 11 ans. Lui et sa petite sœur ont la chance d'aller à l'école. Mais tous les jours, ils risquent leur vie en traversant la savane, peuplée d'animaux sauvages, tous aussi dangereux les uns que les autres, pour rejoindre leur établissement, qui est situé à plus de 15 km de chez eux. Chaque jour, c'est 30 km qu'ils parcourent à pied. Oui, Jackson va à l'école. Mais pour lui et des millions d'autres enfants dans le monde, aller à l'école est un défi quotidien. La pauvreté, l'isolement, la guerre et l'insécurité deviennent des obstacles à leur quête de savoir. Vous ne vous êtes jamais posé la question « vais-je pouvoir aller à l'école cette année ?» Car en France, et cela depuis 1959, la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans. Nous savons éperdument qu'à chaque début du mois de septembre, nous allons laisser nos souvenirs de vacances et reprendre la route vers nos salles de classe. L'éducation est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes, sans aucune discrimination. Chaque enfant, quelle que soit son origine sociale ou le pays dans lequel il vit, doit avoir la chance d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais d'après le site Observatoire des inégalités, en 2015, c'est 63,1 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation, dont 32,5 millions en Afrique subsaharienne. 63 millions, c'est presque la totalité de la population française. Imaginez si chaque individu vivant en France était un enfant déscolarisé. Vous n'y aviez jamais pensé, pas vrai? Vous ne vous êtes jamais dit que ce chiffre pouvait être aussi important? Nous ne devons pas arrêter de nous battre pour ces enfants et pour leurs droits. La scolarité est la chose la plus importante pour se sentir utile et intégré dans la société. L'éducation des enfants est un combat constant, car ils sont notre avenir, les citoyens de demain. Je finirai ma plaidoirie sur ces quelques mots de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.
sa maison incendiée. En Macédoine, sans vue se réfugier. Avec son âne, s'est livré ses cahiers. Dans sa cabane, une envie de crier. Ma parole, c'est pas le bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Ma parole, c'est pas le bol, j'aimerais mieux aller à l'école.
Nous avons entendu Salomé qui explique avec ses convictions d'adolescente sa façon de voir les différences de traitement qu'il y a dans le monde, puisqu'elle parle de différents pays. Alors elle parle de problèmes de conflit, évidemment, qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Il n'y a pas que ça, les problèmes de l'isolement géographique dans certains pays, et aussi les conditions sociales de chaque enfant, certains même étant amenés à travailler. Et ça lui permet aussi de rappeler aux enfants des pays riches, entre guillemets, bien sûr, qu'ils sont finalement avantagés et qu'il faut essayer donc de toujours défendre le droit à l'école pour tous. J'ai trouvé que sa façon de parler était très engagée pour une enfant jeune, est très pertinente.
Et je crois qu'en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, on se retrouve très bien dans ce type de plaidoirie, car effectivement, pour nous, l'éducation, le droit à l'éducation, comme d'autres droits, mais celui à l'éducation, c'est quand même un défi majeur pour les droits de l'homme. C'est un défi majeur pour la démocratie, parce que l'éducation, ça permet aussi aux individus de devenir libres, de penser plus librement, et si certains États restreignent aussi le droit à l'éducation, ou l'ont restreint pendant très longtemps, ou l'ont vraiment canalisé, c'est aussi une façon d'avoir la mainmise sur les cerveaux, sur les esprits. Et on le voit bien par rapport notamment aux questions de l'accès des filles à l'éducation dans un certain nombre de pays. C'est ainsi qu'on maintient les inégalités et qu'on maintient une pression sur les filles et qu'on les empêche de progresser et d'avoir un jour leur libre arbitre. On a bien vu que dans certains pays, pour un certain nombre d'enfants, c'est un défi quotidien d'aller à l'école. Je crois aussi que pour certains pays en voie de développement, c'est un défi majeur de créer des écoles, de donner le droit à l'éducation. Et je pense que la France aussi participe aussi, puisqu'il y a tout un tas d'ONG, tout un tas d'organismes qui participent, on l'a entendu, à créer des écoles, à aller enseigner ou à amener des éléments, des livres. Maintenant, on est au-delà des livres, du matériel qui permet aussi à plus d'enfants d'aller à l'école.
Oui, moi, ce qui m'interroge surtout, c'est en France. Qu'est-ce qu'on en fait de ce droit? Et l'interrogation, elle l'apporte, elle aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de ce droit? On est en train de le laisser mourir, petit à petit. On parle des enfants décrocheurs, mais décrocheurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas trouvé un intérêt à l'école, ou on n'a pas réussi à les accrocher. Ce qui fait que, de plus en plus, là aussi, et je te rejoins, Marie-Jo, on canalise les esprits, en laissant faire ce genre de choses. On ne sait pas y répondre, peut-être, je suis d'accord, mais c'est aussi de ça qu'il faut être conscient, contre lequel il faut se battre. Effectivement, normalement, l'éducation, ça devrait ouvrir l'esprit, et pas fermer l'esprit. Aujourd'hui, je m'interroge.
Oui, et puis je pense qu'en France, tout n'est pas gagné. En France, l'école est maintenant obligatoire depuis cette rentrée à 3 ans, et non pas à 6 ans, comme il est dit dans la plaidoirie. Il y a encore, si les enfants français réussissent pas trop mal à l'école, nous avons encore des défis. Et ça, la dernière enquête de l'OCDE le démontre. Nous sommes un des pays européens qui avons le plus de mal à niveler les inégalités. Nous avons une école qui fait bien réussir les enfants des classes sociales favorisées, mais qui encore creusent les inégalités entre les enfants des classes favorisées et les enfants qui ont le plus de difficultés. Et ça, c'est un défi majeur pour la France, parce qu'il est inadmissible que depuis qu'on en parle, depuis qu'on dit que l'école française ne fait pas diminuer les inégalités de réussite,
ne fait plus,
et le fait de moins en moins, ça se creuse. Oui, le fossé se creuse. Et là, il y a quand même une réflexion à faire en termes, c'est pas en termes d'accès à l'école, mais c'est certainement en termes de méthodes pédagogiques, de conception de l'école qu'il faut améliorer, qu'il faut modifier. Mais bien sûr, il y a de grosses résistances parce que l'école française aussi a été en un temps faite pour trier l'élite et pas pour enseigner à tout le monde jusqu'à un haut niveau.
Cet élitisme existe encore, alors il se présente moins de façon évidente peut-être, mais on peut parler sur le parcours des études des filles, on aurait aussi des exemples à donner qui ne sont pas toujours facilement acceptés dans certains parcours scolaires, mais aussi dans l'enseignement professionnel, des difficultés qu'elles ont à accéder à certains postes et même à certains stages. Donc, le cantonnement entre déjà les élèves issus de certains quartiers, les noms, et ça aussi, ce sont des problèmes récurrents, et donc il faut continuer à essayer d'améliorer les choses. Et en prendre conscience d'abord, c'est un premier point, mais il ne faut pas en rester là. La Ligue s'attache en ayant des actions régulièrement dans les lycées et collèges en France, partout.
Et bien sûr, à Villefranche et dans le Villefranchois.
Oui, bien sûr. Mais l'idée aussi, c'est de participer à l'ouverture d'esprit des élèves, avoir des discussions, à les amener justement à une liberté d'expression, à penser par eux-mêmes, à réfléchir et à être des citoyens actifs, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on rend les citoyens actifs. C'est en leur ouvrant l'esprit, en leur permettant de connaître ce qui se passe, de réfléchir, d'être curieux pour pouvoir participer, parce que sinon c'est pas possible. Bon, ben maintenant le temps est venu de laisser la parole à Dominique pour son billet d'humeur mensuel.
Avec le vent comme complice.
Bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, laissez-moi vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte joie, bonheur, réussite et santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Cette tradition de vœux formulée pour la nouvelle année qui vient m'a toujours plu. C'est l'occasion de dire à tous nos proches combien on les aime et tout le bien ou les bonnes choses que l'on voudrait qu'il leur arrive. C'est aussi, souvent, après une année qui n'a pas été que joyeuse et positive, c'est le moment de remettre les compteurs à zéro et de souhaiter repartir vers de nouvelles et meilleures aventures. Chacun peut alors espérer mieux réussir cette nouvelle page blanche de sa vie. Je voudrais aussi en profiter pour nous souhaiter à tous d'arriver à la fin de cette année en se disant « J'ai fait au mieux et avec tous mes moyens pour que je puisse me dire que mon bilan n'est pas si négatif que ça. » Même si je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans nos objectifs, dans les buts que nous poursuivons et donc dans nos vœux, notre bilan doit être celui de notre action propre. Je souhaite en ce début d'année, pour le monde entier, de la paix, de la joie, du bonheur, la santé et de la réussite dans les actions menées. Mais moi, que ferais-je pour apporter à ce monde un peu plus de paix, de joie, un peu plus de bonheur, de santé et de réussite? Se laver les mains de tout ce qui arrive autour de moi n'est pas ni dans mes habitudes, ni dans mon caractère. Si je regarde le train de la vie passer sans bouger, je ne dois pas non plus me donner le droit de râler sur ce qui ne va pas et renvoyer la faute uniquement sur les autres. Je ne suis évidemment pas responsable de tout, mais je dois pouvoir me dire que j'ai fait tout ce que j'avais la possibilité de faire pour que les choses s'améliorent autour de moi. Et en termes de paix, de joie
et de bonheur, il y a de quoi faire, non ? Pour moi, la paix dans le monde commence dans ma capacité de la faire autour de moi, même au prix de combats, parfois longs et douloureux. Ne pas laisser faire une injustice, un abus, sans réagir. Ne pas laisser s'installer des fausses vérités, des idées nauséabondes, sans réagir. C'est paradoxal de mêler paix et combat. Et pourtant, je crois au combat des idées. Ceux qui font de nous des hommes, et quand je parle des hommes, j'embrasse toutes les femmes. Je crois aux débats qui permettent l'échange et le partage, qui nous font grandir et qui font aussi que nous formons une société, pas une meute, prête à tout et surtout à casser et à détruire. Mais je crois aussi en l'écoute, celle qui nous ouvre aux autres et en découvrant leurs arguments nous permet de nous rendre compte que nous n'avons pas totalement la vérité. C'est pour ça que je dis souvent « je pense », « je crois », « il me semble ». Ceux qui nous vendent des vérités toutes faites, toutes prêtes, je les fuis. Ceux qui recherchent les vérités, je les suis. Cette attitude me semble aussi devoir contribuer à une amélioration de notre vie et de notre monde. Et il y en a bien besoin d'amélioration de notre monde. Il n'y a pas, pour M. Trump et pour d'autres, de réchauffement climatique, par exemple, de dérèglement du climat. Mais la planète, elle, elle brûle. Les glaciers meurent. La banquise disparaît, comme inexorablement des bouts de terre, des îles. Tant que l'argent peut rentrer, tout va pour le mieux. Le climat social aussi est brûlant. Et les pyromanes sont là aussi nombreux. Qu'est-ce que ne feraient pas certains pour qu'on parle d'eux ? Ou pour tenter d'imposer aux autres leur façon de voir les choses ? Toutes les armes sont alors bonnes à leurs yeux. C'est pour moi nier la démocratie. Mais il faut bien reconnaître qu'actuellement, ce que certains nomment le dialogue social relève plus de « cause toujours, tu m'intéresses ». C'est pas vraiment comme ça qu'on avancera. Alors que faire ? Continuer à parler et à propager la parole comme outil du vivre ensemble. Continuer à écouter et à propager l'écoute comme outil du vivre ensemble. Continuer à partager et à propager le partage comme outil du vivre ensemble. Militer, en un mot, pour que les vœux faits en ce début d'année puissent avancer.
Avec le vent comme complice.
Alors, comme Dominique nous l'a rappelé, vous pouvez venir débattre avec nous, réfléchir avec nous, prendre position avec nous. Et pour cela, nous nous réunissons chaque premier mercredi du mois à 20h, Maison des Sociétés, place Bernard Lèze.
Au revoir et au mois prochain, puis nous allons terminer cette émission avec Jacques Brel.
Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui sont la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur, qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens, parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rose arrosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine. Oh, ça. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades, qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, Rosie, cousine, Rosa. Il y a Rosa. Rosa, 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 Rosa
Milésis, c'est le tango du temps des zéros. J'en avais tant, des minces, des gros. J'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses. Quelle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines. Oh, Rosa, Rosa, Rosa. Zam, ronze, rose, rosa, ronze, rose, rosa, rosa, rum, rosis, rosis.